Sandra Viscardi.
La hausse des primes maladie pour l'an prochain s'annonce modérée. L'Office fédéral de la santé publique a fait le point ce matin sur l'évolution des coûts de la santé. Et comme chaque printemps, il est encore trop tôt pour connaître le montant de vos primes pour l'an prochain. Mais quelques tendances apparaissent déjà. Étienne Cocher, vous avez suivi cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'on sait avec certitude à ce stade?
Alors on sait, Sandra, que vos primes maladie ne vont pas baisser pour cette bonne raison que les prestations augmentent régulièrement. Vieillissement de la population, nouveaux médicaments, que ce soit du côté des médecins, des pharmacies, des hôpitaux, des analyses, des psys, des physios, des EMS, la liste est longue. C'est simple, dans aucun de ces domaines, il n'y a de baisse de coûts. La facture totale a augmenté de 4,7% l'an dernier et la tendance se poursuit. Alors, qui dit plus de prestations dit des primes maladie plus élevées, mais c'est pas automatique. Parfois, ces primes augmentent trop vite ou trop lentement, ce qui fait varier les réserves des assureurs. Et c'est là un des enseignements donnés aujourd'hui. L'an prochain, il n'y aura pas de réserve à combler, pas de retard à rattraper, contrairement aux dernières années. Après des hausses de primes de plus de 8% en 2024, de 6% en 2025, on devrait donc être en dessous, avec bien sûr des écarts entre cantons et assureurs. La semaine dernière, l'entreprise Comparis donnait sa propre prévision, 4% de hausse. La Confédération ne peut ni confirmer ni démentir ce chiffre. Prudence au moins jusqu'en été, voire jusqu'à l'annonce des primes cet en septembre.
Étienne Cocher, en direct du Palais fédéral. L'Union syndicale suisse combattra par tous les moyens une loi qui pourrait permettre de réduire les salaires par voie législative au détriment de milliers de travailleurs dans les branches à bas salaire. Il s'agit de traduire dans la loi la motion adoptée d'un élu du centre. Il demande à ce que, là où elles existent, les conventions collectives de travail étendues l'emportent sur les règles cantonales en matière de salaire minimum. Les multinationales suisses doivent respecter les droits de l'homme et la protection de l'environnement en Suisse et à l'étranger et être tenues responsables des dommages causés. La deuxième initiative sur la responsabilité des entreprises vient d'être déposée à Berne avec plus de 287 000 signatures. Rappelons qu'il y a 5 ans, une première initiative avait obtenu en vote populaire la majorité du peuple, mais pas celle des cantons. La reprise d'Hôtel Plan par Der Tour sous la loupe de la Comco, la commission de la concurrence. Cette reprise, dont les discussions ont été finalisées plus tôt cette année, va mener à la création du plus grand voyagiste de Suisse. De quoi, Katia Scher, se demander s'il n'y a pas un risque lié à cette position de dominant sur le marché?
Selon la Comco, il existerait déjà des indices d'une position dominante. Parce que ce sont deux mastodontes qui s'unissent. Hôtel Plan n'a pas seulement sa propre marque, mais compte aussi Migros Vacances, Travel House et Tourisme pour tous. Der Tour, pour sa part, est présent en Suisse sous les marques Helvetic Tours et Kuoni. Et à eux deux, ils comptent plus de 150 agences en Suisse. Face à cette position très forte, la Comco craint un manque d'alternatives pour les consommateurs. Auront-ils suffisamment d'autres choix pour faire leurs réservations? Y aura-t-il aussi une concurrence suffisante si le nouveau géant ont décidé de faire grimper ses prix? Et c'est à ces questions que doit répondre la Comco, qui a désormais 4 mois pour finaliser son examen approfondi.
Les Suisses ont la bougeotte depuis le début de l'année. Les agences de voyage romandes ont enregistré 5% de réservations supplémentaires par rapport à l'an dernier. Les destinations phares de l'été, la Grèce, l'Espagne et la Turquie, 87% des romands privilégient Genève-Cointrin pour leur départ. Une grosse avalanche s'est produite cette nuit sur les hauts de Blatten dans le Lütschental, village évacué sous la menace de la montagne. Mais cette coulée de glace, de roches, de neige et d'eau n'a pas atteint le fond de la vallée. Le front du glacier de Birch avance désormais de 10 mètres par jour, poussé par un éboulis de 9 millions de tonnes. C'est désormais inéluctable. Moustique-tigre va se répandre dans toute la vallée du Rhône. Les autorités valaisannes l'ont annoncé ce matin. Sa population augmente sensiblement dans le Bas-Valais. Ce moustique peut être vecteur de maladies infectieuses comme le virus de Zika, la dengue ou le chikungunya. En Suisse romande, sa présence a été pour l'instant enregistrée sur les cantons de Vaud, Berne, Genève et donc en Valais. Alors pour éviter des épidémies, plusieurs cantons romands font appel à la population afin qu'elle signale tout moustique suspect et surtout qu'elle adopte des gestes adéquats selon Camille Pitlou, biologiste au service valaisan des forêts, de la nature et du paysage.
La population doit prendre le réflexe de vider toute petite accumulation d'eau. Ça peut être des arrosoirs, des soucoupes de pots de fleurs, des bâches peuvent des fois contenir de l'eau, des systèmes de récupération d'eau de pluie. S'ils sont pas fermés hermétiquement, ça peut également être des gîtes à moustique-tigre. Et contrairement à ce que de nombreuses personnes croient, le moustique-tigre ne s'établit pas dans des biotopes naturels car il y a des prédateurs et de la compétition. et il ne peut pas survivre dans ces milieux-là. Par contre, dans des petites accumulations d'eau mimées par ces pièges-là, il peut très bien s'établir et se reproduire.
Camille Pitlou avec Flore Ducet et Mathias Delétro. Une équipe de l'EPFL de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich a mis au point une serviette hygiénique intelligente capable de détecter des maladies comme le cancer des ovaires ou l'endométriose à un stade précoce. Les scientifiques ont équipé la serviette d'une bandelette de tests similaire au procédé utilisé pour les autotests Covid. Lorsque le biomarqueur dans le sang menstruel entre en contact avec un anticorps spécifique, cette bande colorée apparaît. L'intensité de la couleur varie en fonction de la concentration de la protéine correspondante. Les résultats peuvent être lus à l'œil nu ou alors à l'aide d'une application qui a été spécialement développée à cet effet. Pas mal de soleil autour du Léman et en Valais, un peu moins ailleurs. Il fera 21 degrés cet après-midi, 22 demain sous un ciel toujours partagé en matinée et plutôt gris en deuxième partie de journée avec même quelques précipitations à partir du nord-ouest.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 4 au 19 juillet, les rives du Léman vibreront à nouveau au son du Montreux Jazz Festival. Max Richter, poète des émotions. Joe Bonamassa, maître du blues. Diane Reeves, prodigieuse bête de scène. Diana Ross, reine de la soul. Ou encore Samara Joy, époustouflante vocaliste. Pour sa 59e édition, le festival réunit les plus grands noms. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com. Le Grand Soir. Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Les références, Julian Sykes.
Mireille Peraya, deuxième émission d'une série de 5 consacrée aux pianistes américains, avec aujourd'hui Mozart et Schubert. Voici un pur délice, le rondo final du concerto numéro 14 de Mozart avec l'English Chamber Orchestra. Bienvenue dans les références. Thank you. Le rondo final du 14e concerto de Mozart, interprété ici par Murray Peraya et l'English Chamber Orchestra. C'est tiré d'une intégrale des concertos de Mozart enregistrés par le pianiste américain au tournant des années 70 et des années 80. Une intégrale qui reste encore aujourd'hui un modèle de style et d'équilibre, avec un esprit de musique de chambre, oui, car c'est ainsi que Peraya a toujours envisagé l'œuvre concertante de Mozart. Peraya, nous l'avons laissé hier après qu'il a remporté un premier prix au fameux concours de Leeds en Angleterre en 1972. Soudain, sa carrière a connu une ascension en flèche. On parlait d'un poète du piano, du moins d'un pianiste au toucher subtil et coloré. Il faut se souvenir qu'un autre pianiste au jeu très intérieur, Radulupu, a remporté ce concours de Leeds en 1969. C'est le genre d'artiste qu'on recherchait à l'époque, pas des virtuoses en acier trempé qu'on associe à cette sorte de compétition. Pour en revenir à cette période qui a marqué un tournant décisif dans sa carrière, il faut se souvenir que Peraya a toujours été anti-compétition. Il n'est pas du genre à en mettre plein la vue et plein les oreilles. « L'idée d'être un virtuose m'a toujours été étrangère », disait-il en 1983. « Mon éducation n'allait pas dans ce sens. Je n'ai jamais joué d'œuvres brillantes. Mon plus grand bonheur était de faire de la musique de chambre avec d'autres musiciens. J'aime mon indépendance, en ce sens que j'ai ma propre conception du piano, mais cette indépendance ne doit pas conduire à l'isolement. » À vrai dire, je n'ai jamais pensé à la musique en fonction d'un public, même dans des œuvres pour piano seul. Ce qui dominait, c'était le plaisir, d'ordre intime, de jouer Bach et Mozart pour moi-même et d'apprendre à mieux les connaître. Alors on va écouter Peraya, non pas seul au piano, mais avec les musiciens de l'Orchestre de Chambre d'Europe, dans l'un des plus beaux mouvements lents de Mozart, vous le connaissez sans doute, l'Andante du Concerto Köchel 467. Écoutez le soyeux des cordes et le phrasé de Peraya qui est toujours tourné vers le chant et une sorte de vocalité.
Thank you.
Une belle interprétation pleine de tendresse, pleine de subtilité du mouvement central du concerto 21 de Mozart. Mireille Peraya jouait avec l'orchestre de chambre d'Europe. Vous aurez peut-être remarqué quelques ornements ajoutés à la main droite, à la partie de piano, comme cela se faisait d'ailleurs du temps de Mozart. Peraya a souvent cité les opéras de Mozart parmi ses œuvres préférées. Il me semble essentiel de bien les connaître pour interpréter les concertos, dit-il, pour comprendre la composante dramatique de sa musique, car le drame joue un grand rôle chez Mozart. Ses opéras révèlent aussi le sens psychologique, sa compréhension des hommes, sa tendresse pour l'être humain, qu'il s'agisse d'un personnage peu sympathique comme le comte des Noces de Figaro ou de pauvres bonnets comme Bartolo ou Marceline, sans parler d'un Don Giovanni qu'il rend étrangement sympathique. Écoutons donc Mozart, le rondo final du même concerto qu'on vient d'écouter, concerto en ut majeur. Thank you. Un joyeux rondo, celui qui conclut le concerto numéro 21 de Mozart par Mireille Peraya et l'Orchestre de Chambre d'Europe enregistré en mars 1990 à Berlin. On va faire une petite pause dans ces concertos avec un autre rondo, cette fois-ci tiré d'une sonate pour deux pianos de Mozart. Peraya joue avec son complice de toujours, Radu Lupu.
Thank you.
Le rondo final de cette sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart. On y entendait Mireille Peraya et Radulupu. Sur ce disque, on trouve aussi la fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains de Schubert. C'est un enregistrement célèbre où l'on peut voir sur la couverture les deux pianistes assis côte à côte au clavier. Et puisque je parle de Schubert, eh bien je vous propose qu'on fasse une incursion dans sa musique pour piano seul avec le quatrième morceau tiré du premier livre d'Impromptu. Impromptu en la bémol majeur, où vous allez savourer le jeu particulièrement délié de Peraya.
Thank you.
Mireille Peraya dans le quatrième impromptu tiré de l'opus 90 de Schubert. On va revenir à Mozart avec un concerto de la maturité, c'est le numéro 22 en mi bémol majeur, avec un mouvement lent très intérieur, très mélancolique, et un rondo plein de vitalité, plein de fantaisie aussi. À propos de ces concertos, Mireille Peraya a dit « C'est une expérience merveilleuse que de jouer un concerto de Mozart sans chef d'orchestre. Je commence par faire répéter tous les instruments ensemble, en veillant à ce qu'ils respectent la dynamique et les phrasés qui me semblent nécessaires. » Ensuite, lorsqu'ils jouent avec moi, les musiciens doivent écouter. C'est presque comme si nous faisions de la musique de chambre, comme si l'orchestre formait un grand quatuor à cordes. Alors c'est justement les cordes qu'on va entendre, tout d'abord dans le mouvement lent ici, et puis le rondo, un enregistrement de concert réalisé en 2003 au Festival de Lucerne. Mireille Peraya joue avec l'Orchestre de Chambre d'Europe.
Thank you.
On se quitte au milieu de ce rondo dans le 22e concerto de Mozart, un enregistrement de concert en novembre 2003 à Lucerne par Murray Peraya et l'Orchestre de Chambre d'Europe. C'est ainsi que se termine ce deuxième volet d'une série de 5 émissions que je consacre au pianiste américain Murray Peraya. Demain, j'évoquerai ces enregistrements de Schumann et de Chopin avec des études pour piano assez extraordinaires du point de vue de la sonorité. Un grand merci à José Moreno pour son assistance à la réalisation et à demain donc pour de nouvelles aventures, toujours dans les références. RTS Espace 2, il est 13h, tout de suite.